Europe 1. Europe 1,
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Si vous êtes des fidèles, vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, je vous ai raconté le tour du monde à la voile en solitaire d'Yvan Bourgnon sur ma louloute. Vous vous souvenez ? Ma louloute, un catamaran de loisirs, un catamaran de plage. C'était complètement dingue. Eh bien, à côté de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, disons que c'était du pipi de chat. Aujourd'hui, vous allez retrouver les mêmes. Yvan Bourgnon, que je salue. Bonjour Yvan.
Bonjour.
Et ma louloute, toujours la même, toujours aussi fragile, toujours aussi dérisoire, mais dans un défi encore plus fou, encore plus dingue, le passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire le passage du Pacifique à l'Atlantique, par le pôle Nord, au milieu des glaces, en été, quand la glace fond. Tel que vous le racontez vous-même, Yvan Bourgnon, dans votre dernier livre écrit avec Christian Bex, « Conquérant des glaces », qui vient de paraître chez Artaud. Sans dévoiler toute l'histoire, j'ai quand même noté qu'à la fin, vous promettez de ne jamais plus recommencer. Voici cette histoire absolument exceptionnelle. Réalisation signée comme d'habitude, Céline Lebras. Pour commencer, mettons-nous face à un globe terrestre, comme celui qu'on avait à l'école. Vous y êtes ? Vous le faites tourner jusqu'à avoir face à vous les États-Unis. C'est bon ? En haut, à gauche, c'est l'Alaska. C'est de là qu'Yvan va partir, de Nome, en Alaska. Et il va remonter vers le pôle et contourner le continent américain par le nord et déboucher dans l'Atlantique par le Groenland. C'est bon ? Vous visualisez, ça s'appelle le passage du Nord-Ouest. Ça n'est faisable que 2 mois par an, en été, quand les glaces s'ouvrent. Mais attention, il ne faut pas traîner en route, il ne faut pas que la glace se referme sur vous. Mais si vous connaissez Yvan Bourgnon, vous savez qu'il aime les complications. Le passage du Nord-Ouest en bateau, ça fait belle lurette que ça n'est plus un exploit. Le premier à l'avoir franchi s'appelait Roald Amundsen, c'était en 1906. Et depuis, il y a même des pétroliers qui passent par là. Alors où est sa complication ? Tenez-vous bien, elle est sérieuse. Il part sur un catamaran de plage. Si, si, un de ces catas que l'on voit échouer sur les plages de Normandie, de Bretagne ou de l'île de Ré. Un truc pour aller faire des ronds dans l'eau et être de retour juste à temps pour l'apéro. C'est avec ça qu'il part. 6 mètres de long, 4 mètres de large, 2 flotteurs, un mât et au milieu, un trampoline. C'est avec ce bateau déjà qu'il y a 2 ans, il a bouclé son tour du monde en solitaire. Ma louloute, c'est son petit nom. Vous avez noté qu'il n'y a pas de cabine. Il va dormir dans un sac de couchage sous une toile, sur le trampoline. Et je peux vous dire que ça caille là-haut, même en été. Complication supplémentaire, il part sans radar. Les icebergs, il n'aura que son pif pour les détecter. En revanche, par rapport à son tour du monde il y a 2 ans, il a fait 3 petites concessions de confort et de sécurité. Il faut que je vous explique pourquoi.
Il vient d'avoir un bébé, il y a à peine un mois. Oh, c'est gonflé quand même de partir si vite, non ?
Alors il a accepté d'embarquer un GPS, ce qu'il avait refusé dans son tour du monde. Il avait tout fait au sextant, comme le capitaine Haddock. Et puis, il prend aussi un téléphone satellite pour joindre son routeur météo, éventuellement appeler au secours et surtout donner des nouvelles à maman. Enfin, il embarque aussi un pilote automatique. Je vous le dis tout de suite, il va passer son temps à tomber en rade. Et voilà, c'est parti mon kiki. Le 12 juillet 2017, Yvan Bourgnon et ma louloute quittent le port de Nome en Alaska. Il s'est donné 50 jours pour passer.
À bientôt 46 ans, le navigateur franco-suisse va tenter une aventure eh bien jamais réalisée. 2 mois, 7500 km à travers les glaces du Grand Nord entre l'Alaska et le de l'Alaska au Groenland. Alors certes, c'est l'été là-bas, mais les températures oscillent entre moins 10 et 5 degrés.
Bah, au moins, ça fait chaud,
certains ce matin. Voilà, le marin, tout jeune papa, un nourrisson de 1 mois, pas équipé d'une combinaison spéciale, mais en gros, eh bien c'est tout.
Le premier jour, il fait presque doux et le vent pousse le bateau tranquillement. Profite, mon Yvan, profite, parce que dès le 3e jour, commencent les emmerdements. Ma louloute passe le détroit de Bering qui sépare le continent américain de l'Asie. Et à partir de là, il y en a partout. Des glaçons, des icebergs, il y en a partout. Au début, assez dispersés, et puis, plus il avance, plus il se resserre. Et là, il faut en permanence chercher le couloir, chercher le passage et trouver assez de fond pour ne pas racler. Je vous rappelle qu'il n'a pas de radar. Et là, il croise un petit bateau à moteur.
Mona, ça va ? Ça va, ça va ? Vous n'auriez pas vu un bateau échoué dans le coin ? Non, pourquoi ? On cherche un bateau. Il a disparu il y a 2 jours.
2 jours. Dans une eau à peine au-dessus de zéro. Celui qui tombe à l'eau meurt en quelques instants. Moins d'une semaine après son départ, Ivan est en train de jouer sa peau. Une fois de plus. Et là, ça fait 48 heures qu'il n'a pas dormi, 48 heures qu'il avance dans les glaçons, il est totalement naze, il en a des hallucinations. Alors il décide de s'arrêter un peu, pour pioncer. Pas longtemps, un petit quart d'heure, mais il en a besoin. Donc il jette l'ancre. Sauf que l'ancre, il a oublié de l'attacher au bateau, et il voit son ancre qui file au fond. Il bondit pour attraper le bout, et plouf ! Il file à la baille. L'eau est à 3 degrés. Mais il a sa combinaison étanche. Il ne l'a pas fermé. L'eau glacée s'engouffre à l'intérieur. Il va mourir. Avec la combinaison pleine d'eau, il ne peut pas remonter à la force des bras. Il va mourir. Par miracle, au dernier moment, il s'accroche à un cordage. Il s'en sert comme d'une marche pour remonter et... il se retrouve sur le trampoline. Glacé. Tétanisé. À l'agonie. Il n'y a qu'un endroit où il peut se sauver, à poil, dans son sac de couchage, se réchauffer avec le seul chauffage dont il dispose, la chaleur de son corps. Blotti dans son sac de couchage, dans sa tente comme il dit, une sorte de tube en toile qu'il a aménagé sur un flotteur. Ça mérite un carré de chocolat. Non.
Après une journée passée comme hier à naviguer dans les glaçons et à risquer ma vie à chaque minute, aujourd'hui j'ai droit à une pause chocolat. Et ça, c'est mon petit carburant pour le mental. Voilà. C'est bon, mais c'est verglacé, glacé, alors c'est super dur.
Le 26 juillet, après 14 jours de mer et déjà de grosses frayeurs, Ivan Bourgnon quitte les eaux de l'Alaska. Et il pénètre dans le nord du Canada. Et là se lèvent les premières tempêtes, des rafales de vent au milieu des glaçons. Et lui, seul sur son trampoline. Et là, l'enjeu est simple. Si le bateau chavire, il est mort. Alors il choisit de se glisser de cachette en cachette, de lagune en petite crique. Il se planque pour laisser passer le gros temps et il repart quand ça va mieux. Et il en profite à chaque fois pour dormir un peu et bricoler ma louloute. Et les tempêtes s'enchaînent comme ça. 4 d'affilée. Mais bon Dieu, que c'est beau! Que c'est beau! C'est pour ça qu'il est là, pour vérifier que c'est beau, le Grand Nord. Au début du mois d'août, Ivan et sa louloute sont à peu près à mi-parcours. Ils entrent dans le golfe de la Reine Maud, une réserve naturelle de 61 000 km², une arche de Noé arctique. Incroyable. Des cygnes, des faucons pèlerins, des goélands, des mouettes, et à la jumelle sur la glace, un ours blanc. Et puis un phoque qui se jette sur son trampoline, et plus tard des meutes de loups au loin, des renards, des grizzlies, et tout ça dans un décor totalement vierge. Une toundra semée d'étangs et de petits lacs, un paradis glacé. Et le 9 août à 6 heures du matin, sous un soleil rasant qui ne se couche jamais à cette latitude, la louloute atteint Taloyoak, en plein territoire inuit, à l'extrême nord du Canada. Ivan a réalisé les 2/3 du parcours. Ce qui l'attend maintenant, c'est le plus dur. Il va devoir traverser, s'entraîner, les dernières glaces qui bloquent le passage entre le Canada et la mer de Baffin qui longe le Groenland. Normalement, dans ce coin-là, la glace fond début août et se referme début septembre. Mais ça, c'est théorique. En pratique, il y a des jours où ça passe et d'autres pas. Un passage dans la glace peut s'ouvrir et se refermer dans la même journée. En gros, il faut avoir du nez et pas mal de chance. Yvan décide de s'arrêter une petite semaine. Il veut laisser une chance supplémentaire à la glace de fondre. Alors pour patienter, il bouquine sur son trampoline. Il n'a pas emporté une histoire drôle, hein. Into the Wild de John Krakauer, l'histoire vraie d'un jeune Américain qui retourne à la vie sauvage et qui meurt empoisonné par des plantes qu'il a mangées. Sympa pour se changer les idées. Et puis le matin du 17 août, il y va. Il ne sait pas si ça va passer, mais au moins il aura avancé. Pendant toute la journée, ça passe. Le chemin dans la glace est suffisamment large. C'est le lendemain que ça se gâte. Les glaçons s'accumulent, le passage se rétrécit, et puis à un moment, impossible d'avancer. Il est bloqué. Bloqué, seul sur son catamaran de plage, au milieu des icebergs. S'il n'arrive pas à trouver un passage, il va se faire pulvériser. Ma louloute va se désintégrer sous la pression de la glace. Il n'y a qu'une solution. Une seule. Avec la nuit qui ne va pas tarder à tomber, il faut aller très vite. Yvan saute sur la berge, il a de l'eau glacée à 1 degré jusqu'au genou. Et il va tirer la louloute sur la glace. 850 kilos, il est tout seul. Il plante un ancre sur la glace, il va glisser l'autre bout dans un winch, une de ces manivelles qui permet de hisser la grand voile. Et millimètre par millimètre, avec son treuil improvisé, il tire ma louloute hors de l'eau. Voilà. Et l'avantage, c'est que de l'autre côté, il y a un passage. L'eau est libre. Mais maintenant, il faut faire redescendre ma louloute de la glace. Et pour ça, il faut aller planter l'ancre dans l'eau. Et il se fout à poil. Et il y va, à poil, je vous dis, dans une eau à 1 degré. Mais ça ne marche pas. Un morceau de glace bloque le bateau. Et vous savez ce qu'il fait ? Incroyable scène de cow-boy des mers au milieu de l'Arctique. Il sort son pistolet, celui qu'il garde en cas de rencontre avec un ours. Et il vide deux chargeurs dans la glace, façon Lucky Luke. Et la glace cède. Et il repart. Et pour le coup, cette fois, il s'arrête pour dormir 3 heures. Si, si, carrément 3 heures. Une grasse mat. Yvan repart à 4 heures du matin. Et 3 jours plus tard, le 21 août, il arrive à Weld Bay, à plus de 71 degrés de latitude nord. Et une fois de plus, il est coincé, coincé par la glace, bloqué, pas moyen de passer. Il a tenté, il a dû faire demi-tour.
Bon bah là, j'ai dû faire le choix de faire demi-tour. C'est la première fois que ça m'arrive dans tous les défis que je réalise. C'est à l'envers de toute ma philosophie, de toujours aller de l'avant. Et là, tel un alpiniste, j'ai pas eu le choix de faire demi-tour.
Il a fait demi-tour. Et le voilà au même point. S'il ne trouve pas de passage, il va se faire déchirer par la glace. Donc 2 jours plus tard, il essaye encore. Il a trouvé un petit couloir le long de la côte. Il le prend et...
Putain !
Il se retrouve coincé. Il fait moins 5 degrés. Et là, il ne peut même plus faire demi-tour. La glace s'est refermée derrière lui. Il est piégé comme un rat. Dans son livre « Conquérant des glaces », il écrit... L'effroi me gagne jusqu'à la racine des cheveux sous mon bonnet. Jamais je n'ai eu aussi peur de ma carrière de marin et d'aventurier. Sous peser le poids des mots, Yvan Bourgnon, l'intrépide, a la trouille. Il est au bord de déclencher le secours. Il est épuisé, il est rincé comme jamais. Alors il chiale.
Putain, mais les conditions de merde que j'ai, quoi. Il n'y a pas de vent, il y a des glaçons, il y a la nuit, quoi. C'est toujours le stress et j'en ai plein de marre, quoi. Putain, je suis tout le temps tendu, quoi. Il n'y a pas une minute de répit, j'en ai marre, nom de Dieu.
Alors il branche son téléphone satellite et il appelle sa femme, Géraldine. Il écrit « Elle seule sait me consoler, comme un enfant guéri d'un bobo par un baiser. » Et c'est là qu'un petit miracle se produit. Un minuscule passage s'ouvre derrière lui. Minuscule, un trou de souris qui lui permet de faire à nouveau demi-tour et de rentrer à Weld Bay. Et là, il est en train de se poser sérieusement la question d'abandonner quand il voit arriver deux voiliers. deux gros voiliers, avec une cabine, des moteurs et du chauffage. Une Allemande, Suzanne, et Bart, un Hollandais. Deux fous comme lui qui tentent le passage. Il n'est plus tout seul. Et ça change tout. Et avec Bart, ils font ensemble une nouvelle tentative. Ils signent un nouvel échec. Retour à la case départ. Et à nouveau, Yvan allume son téléphone satellite. Il appelle Christian Dumas, son routeur météo.
T'inquiète pas, Yvan. La situation va s'améliorer. Il y a encore une carte à jouer. Et puis si tu peux pas terminer à cause de l'avancée de la saison, faut que t'ailles le plus loin possible. L'idéal serait que tu puisses atteindre un village inuit, où tu pourrais laisser le bateau en hivernage. Si tu n'es pas à Pondilette, à l'entrée de la mer de Baffin, le 10 septembre, faudra que t'abandonnes.
On est le 3 septembre. Ça fait deux semaines qu'Yvan est coincé à Whale Bay, comme Suzanne et comme Bart. Alors ils décident de se lancer tous les trois, ensemble, dans une dernière tentative. Et là, bonne surprise, devant eux la glace est craquelée, ils avancent et ils passent le détroit de Bello, un couloir de 500 mètres de large avec des falaises qui grimpent jusqu'à 750 mètres. Une délivrance, le moral remonte en flèche. Et maintenant faut foncer. Faut bouffer du kilomètre. Il reste une semaine pour rallier Pondilette, la porte du Groenland. Et après, la mer se refermera définitivement. Foncez donc, dans la nuit qui est de retour, avec le mois de septembre et les températures qui ont chuté. Le pont est maintenant couvert de verglas, des stalactites tombent des tangons. Et tout ça dans une combinaison mouillée, glissée dans un sac de couchage, trempé. Et voilà qu'on annonce une tempête. Des vents à 120 km/h. Alors une fois de plus, Yvan trouve refuge dans un fjord. Et pendant 4 jours, il fait le dos rond. 9 septembre, 10 septembre, 11 septembre, 12 septembre. Souvenez-vous de ce que lui a dit le routeur. Si le 10 septembre, tu n'es pas à Pondilette, tout est cuit. Il n'y est pas. Le 12, les vents se calment et il repart. Et il passe Pondilette. La sagesse serait d'arrêter là. D'admettre que c'est foutu. Mais Bourgnon n'est pas homme à capituler. Il prend la direction du Groenland. Et il y a du vent. D'abord 30 nœuds, puis 40, puis 50. Dans la nuit, ma louloute est propulsée comme une bille de flipper. Un coup sur les icebergs, un coup sur les parois du fjord. Le bateau est devenu complètement fou. Yvan balance tout ce qu'il peut à la mer. Les ancres, les chaînes, pour tenter de freiner son bateau. Rien n'y fait. De sa main gauche, il tient la barre. De la droite, il a un couteau. Au moindre signe de dessalage, il est prêt à se jeter sur le mât pour le démolir. C'est le seul moyen d'éviter le chavirage. Et ça dure comme ça, tenez-vous bien, pendant 15 heures. 15 heures, ballotté dans la tempête, avec des pointes à 130 km/h. Au plus fort, Yvan essaye de joindre son routeur météo. Ça ne passe pas. Alors il appelle sa femme.
Allô ? Géraldine ? Ça va pas du tout ? Pas du tout, du tout ! Je suis en danger de mort, Géraldine ! Débrouille-toi pour joindre le routeur !
Et là, ça coupe. Et puis au bout de 15 heures, les vents tombent, la tempête est passée. Ouf ! Yvan s'offre une pause, un peu de sommeil. Il se glisse dans son sac de couchage et dans le tube de toile qui lui sert de tente. Et tout d'un coup, il se retrouve les pieds en l'air. Il comprend pas ce qui lui arrive. Il se dégage paniqué et là il voit un ours polaire, les deux pattes posées sur l'avant du bateau. 600 kilos. Il a son arme, il tire un coup en l'air. La bête ne bouge pas. Elle le regarde comme quelqu'un qui est en train de choisir son repas à la carte. L'ours est à 3 mètres, 3 mètres. Yvan pointe son arme vers sa tête et l'ours recule lentement et il plonge en direction de la côte. Et le lendemain...
Le 15 juillet, je suis parti, j'ai franchi le cercle polaire au niveau de l'Alaska, ce qui caractérisait le début du passage du Nord-Ouest. Et là, aujourd'hui, on est le 18 septembre, et je devrais refranchir du nord vers le sud cette ligne du cercle polaire. Donc le cercle polaire, c'est 66 degrés 33, 3, 2... Zéro ! On a franchi le cercle polaire avec ma louloute ! C'est pas magnifique, ça ?
Le 21 septembre, deux mois et six jours après son départ d'Alaska, Yvan Bourgnon pose pied à terre à Nuuk, au Groenland, où l'attendent sa femme et son petit bébé né juste avant son départ. Il a réussi, mais c'est un miracle. Il ose le dire, ça n'était pas raisonnable.
Ce qui est sûr, c'est que c'était pas raisonnable. Aujourd'hui, avant le défi, j'aurais été conscient réellement de la prise de risque. Je ne me serais jamais lancé sur ce défi. Et j'ai cette image de cette tempête là que j'ai eue dans la mer de Baffin. Je pense que ça, j'en ferai des cauchemars toute ma vie. Et ça a duré des heures et des heures. Et chaque seconde qui passait, c'était pour moi presque la fin, quoi.
Alors c'est promis. C'était sa dernière aventure de fou. Il refera bien une route du Rhum en 2022 et un Vendée Globe en 2024, mais il ne fera plus le fou. Et quand son fils Tao sera assez grand, ils partiront faire un tour du monde en famille, comme il l'avait fait lui-même quand il était petit.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, la plus grande et la plus périlleuse des aventures que je vous ai et que je ne pourrai jamais vous raconter, le défi réalisé l'été dernier, au-delà du cercle polaire par le navigateur Yvan Bourgnon, le passage du Nord-Ouest sur un catamaran de loisirs mal louloute, une aventure extraordinaire que vous racontez donc Yvan Bourgnon dans un livre que je conseille à tout le monde qui vient de sortir chez Artaud et qui s'appelle Conquérante et glace. On va reprendre tout au début. Un passage qui forcément a dû faire froncer les sourcils à pas mal de mères de famille qui nous écoutent, qui est ce moment où vous partez un mois à peine après la naissance de votre dernier fils, Tao. Votre belle-mère a dû vous faire la gueule, et peut-être pas qu'elle.
Je me suis racheté depuis. Hein. je suis arrivé avec les chocolats qui vont bien. En plus, non, c'est vrai que je suis parti une semaine en fait de chez moi, une semaine après l'accouchement.
Oui, parce qu'il fallait aller préparer le bateau avant le départ.
Il y avait la préparation à Nome qui a duré 3 semaines. Alors évidemment, le projet était programmé avant le bébé qui est arrivé, qui lui est arrivé après. Ça a été une décision difficile parce que c'est vrai que j'ai failli décaler tout le projet
d'un an.
Mais en même temps, voilà, le bateau était là, les mécènes et les sponsors étaient là. Donc c'est vrai qu'avec avec Géraldine, on était tendus et j'avais pas vraiment envie qu'elle accouche en retard.
Ça se prend à deux, ouais. La décision.
Ça se prend à deux, oui, clairement, j'ai eu son adhésion, même si pour elle, c'était une vraie difficulté, parce que se retrouver avec un bébé toute seule les 3 premiers mois de la naissance...
Et trembler tous les jours.
Oui, trembler tous les jours pour son homme. C'est clair que c'est une configuration, je pense qu'elle elle a presque moins dormi que moi pendant les 3 mois.
Hein. Et vous entendiez les gens chuchoter dans un coin en disant que c'était pas raisonnable
pendant?
Avant. Juste après la naissance de Tao.
Non, mais curieusement, en fait, les infos que j'avais eues du passage Nord-Ouest avant, et c'était pas si mauvaise. Hein. On m'avait vraiment dit 2 mois de soleil, pas de tempête sur place. Oui, il va faire froid, mais pas de température négative. On m'avait pas fait forcément un décor catastrophique des lieux. C'est vraiment la situation de ce qui s'est passé cette année en 2017 qui a été alarmante. Même quand je croise un bateau à la fin de l'Alaska, là, un bateau autrichien qui avait fait la première partie dans l'autre sens l'année d'avant, ils m'ont rassuré, ils m'ont dit mais t'inquiète pas, ils vont devant toi, il n'y a pas de tempête, on l'a fait l'année dernière, il y a le grand soleil, tu vas faire marcher ton pied automatique, les glaces, ça s'est ouvert depuis 2-3 ans largement, donc tu vas passer à travers. Donc ils ont tous été rassurants en fait.
Vous avez pris un GPS cette fois-ci, c'était une concession à Géraldine ou c'est la topographie du lieu qui oblige à prendre un GPS?
En fait, à la fois le GPS sert à rien parce qu'en fait la carte est très imprécise parce que des bateaux, ça a été fait par satellite et des bateaux océanographes n'ont pas été sur place dessiner les cartes, donc tu peux avoir jusqu'à 4-5 km d'erreur sur les cartes. J'ai traversé des îles où j'ai vu des îles qui n'existaient même pas sur la carte, mais en même temps, ne pas avoir ce GPS, vu qu'il y a énormément de brouillard là-haut, peut-être un tiers du temps, c'était vraiment suicidaire. Donc pour le coup, déjà la navigation était hardcore, donc c'est vrai que le GPS m'a quand même aidé dans certains moments où j'avais zéro visibilité pour quand même ne pas aller me fracasser sur le premier caillou venu.
Alors vous entrez, vous passez le détroit de Bering, là il y a 48 heures, c'est votre premier contact avec la glace, c'est très stressant. La glace, on se rend pas compte parce que les icebergs, on a une image un peu caricaturale de ce qu'est l'iceberg, hein, on voit tout de suite une grosse pointe et puis on sait bien qu'en dessous c'est beaucoup plus gros que ce qui dépasse. Mais pour naviguer avec un petit catamaran comme ça, il y a possibilité de passer par-dessus la glace.
Bah, oui et non, en fait, c'est-à-dire que le bateau, il est à la fois trop petit et trop léger pour pouvoir affronter la glace qui pousse sur les coques. Et ça, c'était un problème quand j'étais vraiment bloqué à la glace. Le bateau cherchait juste à se désintégrer. Et en même temps, il était trop lourd parce qu'il pesait quand même 750 kilos à charger pour naviguer au-dessus de la glace, comme le fait par exemple Sébastien Aubinet sur un tout petit catamaran très léger. Et donc, du coup, c'est un peu le mauvais compromis. C'est pas le bateau adapté pour aller naviguer dans les glaces. Donc, c'est vrai que
En quoi les flotteurs sont en quoi?
En composite, en plastique en fait. Hein.
Mais spécialement dessiné pour ce défi-là?
Non.
Ou c'est le même que...
C'est le même qui est celui qui a fait le tour du monde. Alors certes, avec un petit peu de Kevlar sur les étraves, voilà, sur le nez du bateau.
Pour renforcer.
Voilà, mais à un moment donné, quand la glace pousse sur les côtés, là, ça pousse sur du composite. Et j'ai à 5-6 reprises entendu, commencé à entendre les craques, le carbone qui craquait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, en quelques secondes ou quelques minutes, le bateau se désintègre. Et comme t'es sur une glace qui est à ras de l'eau, ben, tu te retrouves avec ta combinaison étanche sur un glaçon qui, lui, peut fondre en quelques heures sous tes pieds. Donc comme les secours, ça prend en général 2 à 3 jours pour un brise-glace de venir sur place, évidemment, t'as pas le temps de survivre.
Dès le premier jour dans les glaces, vous tombez à l'eau. Alors c'est une bêtise, c'est la faute à la noix, c'est-à-dire vous jetez l'ancre, sauf qu'elle n'est pas accrochée au bateau, vous voyez le bout de partir, vous suivez l'ancre pour la rattraper, puis vous plongez avec l'ancre dans l'eau. La combinaison est ouverte. Alors cette histoire de combinaison, il faut nous expliquer. C'est une combinaison donc étanche qui, en théorie, vous permet de tomber à la baille et de remonter.
Voilà, tout à fait. Je suis quasiment en permanence en combinaison étanche, sauf que en fait, même si c'est des combinaisons respirantes en Gore-Tex, c'est vrai que quand on fait une manœuvre type, justement, aller mouiller, donc tu dépenses de l'énergie à lancer ton ancre, à affaler tes voiles, etc. Donc pour cette manœuvre-là, ça vaut le coup d'ouvrir la combinaison sur la partie, soit avec la zipette, et pour que la respiration s'évacue. Oui. Donc c'est un réflexe assez logique. C'était pas un accident, sauf que effectivement, la bêtise, c'est de pas avoir attaché le bout du bout de l'ancre, et pourtant il y avait 20 mètres de bout. Mais voilà, le bateau, il y a une fausse manœuvre, dans ma marche arrière, le bateau est reparti à la voile, et c'est en voulant rapprocher effectivement ce bout que je suis passé par-dessus bord, quoi, comme un débutant. Quoi.
Vous passez les 2 mois, là, un peu plus de 2 mois, dans la combinaison de survie.
Ah, clairement, oui, avec deux, je dirais au moins une fois par jour, où je cherche évidemment à enlever cette combinaison, ne serait-ce que pour aller aux toilettes. Mais évidemment, je ne fais que l'enlever et la remettre. Je suis toujours quasiment en insuffisance de protection, que ça soit contre la neige, la pluie et surtout le froid. En fait, l'explorateur ou l'aventurier classique, il a quand même sa tente. Et qu'est-ce qui se passe en général? C'est que le soir, il s'arrête, il plante sa tente et il y a du volume dans la tente, donc il peut allumer son réchaud, il fait monter la température dans le réchaud, puis finalement, il finit par se déshabiller, à se mettre dans son sac de couchage chaud, et il passe au moins quelques heures au chaud, quoi. Et ça, cette configuration, en fait, elle n'était pas possible, parce que mon sac de couchage, lui, même s'il était en synthétique, il séchait jamais, à cause du sel et l'eau de mer. Donc du coup, moi, je ne voulais pas me déshabiller non plus.
Donc c'était la combi dans le sac de couchage.
Voilà, c'était la combinaison, on va dire, quasiment mouillée tout le temps, et dans un sac de couchage, mouillé. Quasiment trempé tout le temps.
D'ailleurs, ma louloute, elle va rentrer au musée à un moment donné. C'est un bateau exceptionnel qui a vécu ce que jamais un catamaran de loisir n'a vécu.
Elle va rentrer au musée, sauf s'il y a vraiment un aventurier qui veut s'attaquer encore à quelques défis, et je lui prêterai volontiers. Ouais, non, ouais. C'est un bateau, ça a besoin de vie, ça a besoin de toucher l'eau aussi, un bateau.
Mais vous êtes attaché à ça? À l'objet,
oui, oui.
Bateau?
Ah oui, ce bateau, moi j'ai vécu presque 2 ans pendant le tour du monde dessus. C'est 4 ans de ma vie, ce bateau. Hein. J'ai travaillé à terre dessus, j'ai vécu, j'ai dormi dedans, Voilà, c'est chaque détail, tout compte sur un bateau comme ça. Je me suis attaché fortement à ma louloute. Ouais.
À quoi sert le routeur météo dans l'Arctique? Parce que c'est particulier, je crois, dans l'Arctique, la météo est un exercice très hasardeux.
Compliqué. Alors, routeur, c'est peut-être pas le bon mot pour le coup, parce qu'il ne me donnait pas le cap à suivre. Mais par contre, il me donnait les cartes météo, les cartes de glace, position des glaces, qui étaient plus ou moins bonnes. Et les avis de tempête. Et c'est là-dessus que ça a été un petit peu compliqué.
Parce que dans le dernier round, il se plante.
Bah, clairement, quand je repars pour le dernier section, il m'annonce que la mer de Baffin, il n'y a plus de glaçons, il n'y a plus de tempête, il y a une mer à vent de nord et que tout est favorable. favorable.
Il y a 130 km/h
de vent. Voilà, et ça a été un carnage. J'ai enchaîné tempête sur tempête. Mais le pauvre, il y est pour rien, parce que la mer, là-haut, ce qui se passe, c'est que la météo est totalement imprécise, parce qu'il n'y a pas de recul, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de balises qui donnent des observations. En France, on a 100 ans de recul sur la météo, donc on sait la différence entre la prévision et la réalité. On l'a analysé. Là-bas, il n'y a personne qui donne de retour. Donc, et puis, il y a des effets de site qui m'ont vraiment perturbé. Et 130 km/h sur un petit cata comme ça,
au
c'est de la folie.
Au milieu des glaçons, quoi.
Ouais, le pire, je crois que c'était à 4h du matin, quand le jour s'est levé. Et là, j'ai aperçu, donc, avec 4-5 mètres de creux, partout autour de moi, des glaçons à perte de vue. Là, je me suis dit, mais t'es passé à 10 nœuds, là, en plein milieu des glaçons, en pleine nuit, dans 5 mètres de creux, dans 130 km/h. En fait, t'en touchais un, c'était fini, quoi. Et là, je me suis dit, vraiment, mais qu'est-ce que tu fais? Et je pouvais même plus faire demi-tour. Le village, qui était pourtant encore pas trop, trop loin, qui était peut-être à 50 000.
Qui était un village inuit, hein.
Voilà. Je pouvais même pas revenir dessus, parce que la mer était de face. Il y avait un tel vent que
c'était pas remonter contre le vent, quand même.
C'était pas possible de remonter face au vent.
Alors, vous étiez parti là-bas pour vérifier la réalité du réchauffement. Pour le coup, vous avez vérifier que le réchauffement, c'est pas un truc qui se fait tous les ans, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Il y a des hauts et des bas. Cet été, le réchauffement n'était pas évident.
Alors, il n'était pas évident, mais sur une zone très précise. C'est-à-dire que la zone où j'ai été bloqué, elle était sur 50 km, en fait. Donc oui, cette zone-là, elle s'est débloquée anormalement, tardivement, cette année. Mais par contre, sur les autres zones, clairement, de passer à la voile, comme ça, un peu, pas la fleur au fusil, mais de manière, avec un bateau qui n'est pas fait pour, c'est quelque chose qui, il y a 15 ans, n'était pas possible.
Oui, parce qu'il faut le dire, le passage du Nord-Ouest, en vérité, ça n'a pas été possible tout le temps. Ça n'est vraiment possible que depuis quelques années.
Exactement. Avant, il y a que 100 bateaux, 100 voiliers qui sont passés en un siècle, et tous les bateaux qui sont passés, ou les quelques bateaux, les 3, 4, 5 bateaux qui passaient, c'est vraiment en réussissant, en mettant les gaz sur les moteurs, en poussant la glace de manière impressionnante.
Ils jouaient les brise-glace, quoi.
Voilà, ils faisaient les brise-glace, quoi. Et forcément, est-ce qu'un voilier pouvait passer là, comme ça, avec un bateau pas adapté, c'était la question. Mais ce qui m'a touché, moi, c'est en discutant avec les Inuits, c'est de voir leurs impressions. Parce que quand un Inuit te dit, moi, il y a 30 ans, ici, il n'y avait jamais d'eau devant chez moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'un bateau ni de l'eau, et qu'à chaque village où tu vas, parce que j'en ai fait 5 en tout, ils te répètent la même chose, tu te dis, voilà, ce n'est pas un truc qui date d'un siècle, c'est eux, quand ils étaient petits, ils ne savaient pas ce que c'était que la mer. Et actuellement, il y a des zones, c'est 5-6 mois d'eau devant chez eux sur parfois des bandes de 10-20 000 de large. Donc c'est vraiment impressionnant comment le réchauffement climatique est passé par là.
Alors l'ours, qui est le symbole du réchauffement climatique, celui qui attire notre attention sur ce qui est en train de lui arriver là-bas, vous l'avez vu de près, on vous avait donné une arme, c'est donc que vous saviez qu'il y avait un risque de croiser un ours, mais de là à le trouver les deux pattes sur le bateau, c'est dingue.
En fait, je rêvais de voir des ours polaires, j'étais aussi allé pour ça. J'en avais vu, mais de très loin, juste avant.
À la jumelle.
Voilà, tout à fait. Et là, je me disais, bon, c'est vrai que j'étais un peu frustré de ne pas les voir de plus près. Mais plus près, pour moi, c'était 100 mètres, quoi.
Là, c'était 3 mètres.
Et là, pour le coup, le réveil, il a été hyper violent. Je dormais pour une fois bien, il n'y avait pas de glace autour de moi. Et le bateau, tout d'un coup, s'est incliné violemment. Donc là, j'ai compris qu'il y avait une masse énorme qui était montée sur le bateau. Et c'est vrai de me retrouver en pleine nuit, à sortie du réveil, face à la bête qui était là, à 3 mètres devant moi, posée avec ses pattes, posée sur le pont du bateau. Et il regardait vers moi, en plus, quoi. Et là, j'étais terrifié, quoi.
Mais donc, vous le visez comme pour le tuer, et il s'en va.
Je tire deux coups en l'air pour lui faire peur, je hurle, et il n'a même pas peur, quoi. Et là, les minutes passent, je me mets effectivement à le viser, et au bout d'un moment, je me suis dit, s'il vient vers moi, je tire, s'il va à l'eau, je tire pas, mais...
Vous vouliez pas voir un ours pour le tuer, quoi.
Non, c'est clair.
Ouais. Donc vous avez été dispensé de...
Ouais, après j'ai essayé de retrouver le sommeil, ça a été compliqué pour moi, et puis le jour suivant, j'ai recroisé les pêcheurs qui étaient venus me voir en bateau, et m'ont montré clairement des ours polaires dans la montagne. Donc ça a été compliqué de retrouver aussi le sommeil sur la nuit suivante où voilà, j'avais hâte de repartir du mouillage quand même.
On a diffusé un extrait du documentaire qui a été réalisé sur cet exploit, ouais, avec les images que vous tournez vous-même. Donc c'est évidemment assez limité, vous tournez au fur et à mesure que vous avancez, quand vous pouvez, quand vous avez le temps, quand c'est possible. Il y a ce moment de désespoir extrême là. J'imagine que pour vous ça doit être la première fois que vous êtes au fond du seau à ce point-là.
Ah ben bah je, oui, on me connaît pour avoir un moral et puis ouais, un goût, un appétit pour la vie et pour ces exploits faramineux. Pendant les 20 mois d'aventure autour du monde, j'ai jamais faibli, j'ai jamais baissé les bras et c'est vrai que ça fait partie de moi. Là, j'avoue que bon, j'ai été chercher mes réserves, mes ressources. En même temps, je pense que ça fait du bien aussi à un aventurier de voir jusqu'où on peut aller, clairement. Voilà, après ça m'a pas dégoûté de l'aventure pour autant. Ce qui me plaît dans l'aventure, c'est d'ouvrir les voies, d'être un peu nouveau sur des nouveaux territoires, et voilà, j'en ferai d'autres, peut-être des moins dangereuses.
Merci beaucoup Yvan Bourgnon d'être venu nous raconter cette nouvelle aventure. Vous reviendrez pour le Vendée Globe par exemple,
hein, avec grand plaisir,
pour raconter votre Vendée Globe. Ça s'appelle Conquérant des Glaces, c'est un livre formidable dont je ne vous ai raconté que 2%. C'est publié chez Arthaud, ça vient de sortir, c'est signé Yvan Bourgnon.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.